Nous accueillons Stéphanie au 39-21. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Stéphanie et quel âge avez-vous ?
Alors, je vous appelle de Falicon, c'est un petit village à 7 km de Nice.
Oui.
Et j'ai 54 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Stéphanie ?
Donc, je voulais vous parler de la fibromyalgie.
Oui.
Et déjà, je voulais vous remercier de me donner cette parole, parce que je vous ai un peu interpellée sur votre espace, et donc je voulais vous remercier.
Sur mon espace, qu'entendez-vous par là ?
Je vous ai interpellé sur votre Instagram perso.
Oui, oui.
Bah,
oui,
mais c'est aussi fait pour ça.
C'est aussi fait pour ça.
Et vous m'avez très gentiment répondu qu'on allait me rappeler, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je voulais vous remercier par rapport à ça.
Mais je vous en prie, mais c'est fait pour ça. Ces réseaux sociaux sont faits pour ça, au moins, pour que nous puissions prendre contact les uns avec les autres, échanger. Et vous qui nous écoutez, d'ailleurs, je vous encourage à procéder comme Stéphanie. En fait, vous écrivez sur Instagram, que ce soit l'Instagram de la Libre Antenne ou le mien, vous serez rappelé, chers amis. En tout cas, Stéphanie, vous voulez nous parler de la fibromyalgie je suppose vous touche. Vous êtes atteinte de fibromyalgie depuis combien de temps maintenant ?
Alors, quasiment une dizaine d'années.
Oui. Vous avez tout de suite été diagnostiqué ou vous avez un peu erré au niveau du diagnostic ?
Oui, alors en fait, non, il faut savoir que c'est jamais une maladie, et pour ça je le dis, je vais le dire pour tout le monde, c'est jamais une maladie qui se diagnostique aisément et pour tous. C'est toujours une maladie avec un diagnostic au long cours. Parce que c'est une maladie dont le diagnostic se fait par élimination de toutes les autres maladies possibles.
Oui.
Donc c'est toujours un peu dans l'errance et c'est toujours au long cours.
D'accord.
Donc c'est toujours un long parcours pour arriver jusqu'à un diagnostic, et malheureusement un long parcours toujours dans la douleur.
Alors, justement, Stéphanie, vous allez bien évidemment nous raconter cette errance pour arriver à ce diagnostic. Une errance qui, je suppose, vous a coûté beaucoup. J'entends par là dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Mais pour que celles qui nous écoutent ce soir, pour faire gagner du temps, peut-être à certaines femmes qui nous écoutent ce soir... comment avez-vous procédé ? Quels symptômes aviez-vous ? Que ressentiez-vous au tout début ?
Alors pour moi, ça a commencé par le syndrome des jambes sans repos. Donc le syndrome des jambes sans repos, c'était les jambes qui tressautent, qui bougent toutes seules quand elles sont au repos. Donc c'est-à-dire le soir quand je me couchais dans le lit, j'avais les jambes qui bougeaient toutes seules dans le lit.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'en rendre compte. En fait, j'ai fait une nuit du sommeil en hospitalisation. Et quand on m'a fait faire ma nuit du sommeil, on s'est rendu compte que j'avais 43 réveils par heure. Et environ, entre 43 et 48 réveils par heure. Et donc, que ça ne permettait pas d'avoir un sommeil de qualité récupérateur. Et que c'était absolument impossible de pouvoir dormir normalement. Et donc là, on a voulu me traiter pour ça. Donc ça a commencé pour ça. Comme ça, pardon.
D'accord.
Donc ça a été les premiers éléments. Donc en fait, ça faisait déjà un long moment que je n'avais plus du tout une qualité de sommeil optimale. Voilà. Mmh. Ensuite sont venus... les premières, donc c'est un espèce de cycle qui s'enchaîne, hein, le sommeil non récupérateur ou la douleur et la fatigue chronique, c'est les trois piliers. Et après, il y a plusieurs symptômes, on peut aller jusqu'à 100 symptômes qui sont largement décrits. On ne va pas avoir tous les symptômes en même temps, mais bon, il y a le sommeil non récupérateur, la douleur chronique, c'est-à-dire supérieure à plus de 3 mois, et la fatigue au long cours, c'est-à-dire supérieure à plus de 3 mois aussi. Donc, il faut que ces trois choses soient, ces trois éléments soient au moins réunis pour qu'on puisse déjà avoir au moins ce premier cap à tenir. Et ensuite, on ira plus loin dans les recherches. Donc, en fait, ça fait un espèce de cercle vicieux. Donc, bon, après, j'ai eu les douleurs. Donc, les douleurs, c'était le matin, j'avais l'impression de me lever du lit. Bon, déjà, j'ai été raide comme un piqué. Et c'était difficile de sortir du lit, mais je me levais comme si que... comment vous dire, comme si j'avais enchaîné un marathon ou un combat de boxe sans s'en pomper. Donc c'est impossible, j'étais comme si on m'avait roué de coups. Et en fait, j'avais juste essayé de dormir. Donc c'était affreux, j'avais des courbatures de partout. C'est encore le cas maintenant, hein.
Vous travaillez à cette époque?
Oui, je travaillais toujours. J'avais une activité professionnelle complètement épanouie. Hein. J'étais infirmière de bloc opératoire.
D'accord.
Et une activité très épanouie puisque je travaillais en 12 heures. Donc, je travaillais beaucoup même. Et ensuite... il y a cette fatigue chronique parce que vous travaillez à fond. Vous avez votre vie par ailleurs, qui est quand même une vie d'une femme active, comme toutes les femmes, hein, qui bossent, qui après enchaînent leur deuxième journée à la maison avec toutes leurs activités normales, comme toutes les personnes qui ont leur foyer à tenir. Leurs courses à faire et tout ce qui va avec, la gestion de leur maison et tout ça. Et puis voilà. Hein, ensuite, c'est un espèce de cercle vicieux. Et quand j'ai vu dans quelle spirale ça s'enchaînait et que j'arrivais plus après au bout d'un moment, mais ça a duré un bon bout de temps, après j'arrivais plus à gérer vraiment cette situation, mon corps ne tenait plus et devenait douloureux, ça a été vraiment catastrophique. Bon, je tenais. Et après, j'ai eu une intervention chirurgicale. Et vous êtes toujours là? Allô?
Je suis toujours là, je vous écoute.
Oui. Excusez-moi.
Je vous écoute religieusement.
J'entendais un gros blanc et qui s'est très bien passé. Et au décours de l'intervention, bon, j'ai fait mon petit arrêt maladie et tout ça. Et au décours de l'intervention, j'ai fait une grosse complication chirurgicale. Et j'ai fait une grosse thrombose. Mmh. Qui m'a caillotté tout le système portal. Donc, comment être claire et précise, on va dire que ça m'a fait un gros caillot au niveau du foie, de la veine des intestins et de la veine de la rate. Voilà. Donc, j'avais plus rien qui fonctionnait. Et bon, et heureusement que je suis infirmière, parce que j'ai compris tout de suite avec mes effets, tout ce que je voyais, comment mon organisme se comportait, j'ai compris de suite que je défaillais, quoi. J'ai dit, bon, allez, j'ai appelé les pompiers directs, nous sommes descendus aux urgences et j'ai été mise sous anticoagulant à forte dose. Effectivement, j'avais bien une thrombose, j'avais plus rien qui circulait quasiment dans le corps. Et fatalité, on a découvert que j'avais une mutation génétique d'un des facteurs de la coagulation qui faisait que mon corps coagulait trop vite, mon sang, pardon. Et ça, c'est de la faute à pas de chance. On ne pouvait pas deviner que j'avais une anomalie génétique au niveau du sang, hein, avant d'être opérée. On ne cherche pas ce genre d'anomalie génétique avant une intervention. Et donc, voilà, j'ai pas eu de bol. Et donc, j'ai eu une thrombophilie qui a fait que je peux faire des énormes caillots comme ça, veineux. Donc, j'ai été mise sous anticoagulant à vie. Et interdiction à vie de toucher des éléments piquants, tranchants, coupants. Vous voyez ce que ça veut dire pour ma vie professionnelle.
C'est carrément l'arrêt de votre vie professionnelle.
Ça a été un énorme choc. Ça a été une espèce de bombe qui m'est tombée sur la tête. Bon, j'ai été arrêtée pendant quasiment un an et demi. Ça a été très raide pour moi. Donc, 6 mois d'alitement strict directement. Et je crois que ça a été là le véritable déclenchement choc de ma fibro, où j'ai eu vraiment du mal à me sortir. Là, ça a été vraiment la spirale infernale avec là, je suis ce que c'était les véritables douleurs de la fibro. Là, on peut parler de la spirale infernale de la fibro. Voilà.
Cela a eu pour conséquence sur vous de vous immobiliser, de vous handicaper totalement.
Alors là, j'ai eu des espèces de paralysie des membres, des paresthésies, des pertes de mémoire, des vertiges, des tremblements, le fibrobrouillard, des trous de mémoire, ça je vous l'ai déjà dit, ouais, ça, des clonies au niveau des membres quand je marche, les je sais pas, ils marchent tous, les membres inférieurs, les jambes, elles marchent comme toutes seules, comme si c'est pas moi qui les commande, des espèces de handicaps complètement comme si c'est plus moi qui commandais mon corps. La station debout, parfois, c'est très compliqué. Lever les bras, c'est impossible. Les gestes du quotidien étaient devenus quasiment impossibles. Mais je dois dire qu'à force de combativité, bien, j'ai réussi malgré tout à pouvoir reprendre un travail à mi-temps thérapeutique, sous réserve de ne pas toucher d'objets piquants, tranchants. Et on m'a trouvé un poste aménagé à ce moment-là. Et je devais reprendre un petit boulot à l'hôpital, puisque j'ai fait ma carrière au CHU. Et on m'a mis dans un bureau. Donc c'était compliqué aussi. Hein. Pour moi, c'était un peu une punition, mais la plus dure des punitions a été qu'on m'a mis dans un bureau, mais au bloc opératoire. Donc là, ça a été mais carrément un calvaire, parce que je voyais tous les jours mes collègues passer devant moi et moi pas pouvoir faire ce qui était mon épanouissement de tous les jours. Enfin, c'était... Et là... Là, je crois qu'en fait, j'aurais jamais dû reprendre le boulot, mais pour moi, c'était pas possible de ne pas reprendre, parce que c'était rester dans un enfermement d'une situation de maladie, et je voulais pas de cette maladie, quoi. Vous voyez, c'était terrible. Mmh. Et donc, bref, jusqu'au jour où mon corps, je suis retrouvée devant un escalier, je savais plus marcher, et là, c'est mon corps qui disait non. Oui. Voilà. Et là, maintenant,
On va marquer une pause, Stéphanie, et on va continuer à voir quel impact cette fibromyalgie a eu sur votre existence. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Merci.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 739 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h27, vous êtes sur Europe 1. Et c'est votre libre antenne, chers amis. Stéphanie, la résultante de tout cela, quelle est-elle ? Quel impact cela a eu sur votre vie ?
Ben alors, l'impact, c'est que ben, j'ai perdu quand même, au début, hein, j'ai perdu l'estime de moi-même, j'ai perdu mon identité professionnelle,
oui.
J'ai perdu un peu de mon estime de vie, j'ai, ma vie a changé du tout au tout. J'ai perdu une partie de ma vie de couple parce qu'il ne faut pas croire, mais l'intimité du couple, elle se casse la gueule quand même. Hein, même si j'ai un mari qui est fantastique, il est devenu carrément mon assistant de vie.
Oui.
Il m'aime beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Hein. Il a fallu que je me réinvente une vie différemment avec un avenir adapté. J'ai fait l'université des patients et je suis devenue patient expert.
Qu'est-ce que patient expert ? Expliquez-moi.
Alors, patient expert, c'est pour donner de l'éducation thérapeutique à des gens qui ont la même maladie que vous pour qu'ils vivent mieux avec leur maladie. Donc, pour D'accord. ça, voilà, pour ça, vous avez... trois universités qui dispensent cette spécialité. Il y a l'université à Paris-la-Sorbonne, à Grenoble et à Aix-Marseille. Et ils prennent des patients qui ont quand même un certain niveau d'études. Je crois que c'est pas plus d'eux. Et ça existe depuis 2009. Et ça fait partie du programme gouvernemental santé 2019-2023. C'est un nouvel acteur de santé. Et voilà, nous sommes, depuis 2009, nous sommes à moins de 250 patients experts formés. Et les hôpitaux forment sur le tas des patients experts ou des patients partenaires pour inclure dans leur programme de santé.
D'accord.
Bon. Alors moi, j'interviens particulièrement auprès des... Parce que c'est mon choix. Hein, dans des groupes de parole ou dans des associations et auprès des écoles d'infirmières. Je suis référencée à l'ARS PACA. Donc, les écoles d'infirmières me joignent et je vais dans les écoles pour leur parler du patient expert. Parce que je préfère les former à la base pour qu'ils ne soient pas étonnés quand ils en rencontrent dans les services de soins. Et voilà. Mais après, j'en parle à mes pairs, c'est-à-dire aux patients comme moi.
D'accord. Alors, malgré voilà. tout ça, Stéphanie,
oui.
c'est un combat de tous les jours, hein, puisque depuis 4 ans et demi, oh. Vous ne travaillez plus et pourtant, vous devez encore vous battre pour être reconnue
oui.
par rapport à cette fibromyalgie. Pour qu'on vous accorde ce statut vos ALD, hein, c'est affection oui. De longue durée,
oui.
ce qui vous permettrait de vivre décemment, en tout cas de toucher une allocation, qu'on vous refuse depuis 4 ans et demi. Et c'est pour vous une blessure. Hein. J'ai senti, lorsque vous m'avez contacté, que c'était
oui.
Une incompréhension totale. Et quand on vous écoute,
oui.
on peut comprendre aisément que vous le viviez comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne vous accorde pas l'ALD ?
Alors, c'est très simple et en même temps, c'est très compliqué. Alors, je vais vous dire que quand même, tous nos voisins européens reconnaissent cette pathologie complètement et tous les pays reconnaissent et donnent l'ALD à leurs patients. Alors, nous, chez nous, la CPAM a fait une fiche de santé à Amélie dit que la maladie, elle est longue, invalidante, voire handicapante, mais elle est peu coûteuse pour la sécurité sociale. Donc, c'est à ce titre qu'ils refusent l'ALD. Donc, pour eux, comme elle n'est pas coûteuse, ils disent non, on ne va pas la mettre en ALD. Voilà. Donc, ils disent qu'elle n'est pas coûteuse. Mais c'est faux. En fait, c'est une ineptie de dire que c'est pas coûteux, parce que ce qu'ils reconnaissent pas, c'est tout ce que nous, on a comme dépenses au quotidien. Ils nous reconnaissent pas comme un handicap, en fait. Ce qu'il faudrait voir en vrai, c'est la définition du handicap. Nous, on est des gens, en fait, ils reconnaissent pas, mais on est une maladie invisible et on est complètement discriminé. Et ils ne voyaient pas, en fait, tous les problèmes engendrés par cette maladie invisible. On est complètement maltraité en deux mots et maltraité en un mot par notre système de santé. On est complètement nié dans notre pathologie, on nous laisse sur le côté. Alors, je veux dire, tous les soins auxquels on pourrait prétendre, parce qu'ils nous foutent sur le bord de la route, sous prétexte qu'ils ne savent pas comment nous soigner, alors on nous soigne à coups d'anti-épileptiques, d'antidépresseurs, alors ils ne veulent plus nous donner d'analgésiques, d'antidouleurs et oui. Machin. On nous donne du sport adapté, mais même le sport adapté n'est pas pris en charge à 100%. C'est-à-dire, ils vous donnent d'aller faire des fiches de kiné de sport adapté, mais ce n'est pas pris à 100%. Il faut que vous le payiez, vous, avec votre carte de sécu et de mutuelle. Donc ça, c'est les recommandations de la fiche de santé Amélie. Donc si on vous donne des séances de kiné que vous devez faire toute votre vie, si vous ne pouvez pas vous le... Admettons que vous n'ayez pas de mutuelle pour une raison X ou Y, on est dans la précarité. Je veux dire, parce que là, vous doutez bien qu'au bout de 4 ans et demi sans travailler, oui. Là, je suis mise en invalidité dans 3 mois. Je vais toucher des figues. Je veux dire, à un moment donné, vous ne vivez pas avec un salaire d'une invalidité. Hein. Vous voyez bien dans quel système on est en train de oui. partir et oui. de vivre. Oui. Alors, on est dans un système vraiment précaire. Alors, il faut rogner sur tout. Et là, on se retrouve dans une spirale où on est où on doit faire des choix entre se chauffer, manger, machin, ou se soigner, ou tout. Alors, on est là, ils nous mettent, donc ils ne nous reconnaissent pas, donc on se retrouve avec nos soins, et on a du kiné à faire, par exemple. Je prends l'exemple du kiné, parce que c'est celui qui me vient en premier, mais on a le kiné, par exemple, toute l'année, avec des soins à devoir faire, et on ne peut pas faire autrement que de le faire. Et si on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas pris à 100%, on fait quoi? Donc, on se soigne plus. On se soigne plus, donc. C'est fini, on ne se prend plus en charge. Voilà.
J'ai un SMS qui me dit, Olivier, l'ALD n'a rien à voir avec l'allocation. Vous pouvez m'expliquer parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça.
Avec l'allocation. Alors, avec l'allocation adulte handicapé, peut-être,
oui,
tu veux dire?
Oui, enfin, l'ALD, l'affection longue durée, c'est oui. ce dont vous êtes atteint. Je suppose que oui. c'est le statut qui en découle, oui. qui oui. donne le droit à une allocation. C'est ça auquel vous n'avez pas le droit?
On n'a pas le droit à l'affection longue durée.
D'accord.
Pour avoir l'affection longue durée, c'est pour avoir les soins gratuits.
Exactement. Donc, c'est voilà. un statut, en fait. C'est, oui. on ne vous reconnaît pas cette...
Voilà. Alors, j'aimerais vous dire que maintenant, il est paru au 20 octobre, est sorti le dernier au journal officiel, parce que j'ai fait une campagne de mailing toute seule, là, mailing questions-réponses, auquel j'ai été associée avec... l'association Fibromyalgie Incomprise. Nous étions, je ne sais pas moi, 21 000 à faire des emails en même temps. J'ai une vingtaine de réponses moi-même, avec plusieurs questions inscrites au Sénat. Et j'ai eu donc plusieurs réponses et des questions écrites au journal officiel aussi. Et j'ai eu donc une réponse qui était celle de l'ALD 31 possible, inscrite au journal officiel, mais sous réserve que le médecin expert dise oui. Alors oui, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Déjà, c'est hors liste. Donc, ça veut dire que c'est au petit bonheur la chance encore. C'est bah, tant mieux pour vous si vous l'avez. Mais deuxièmement, ça veut dire que... Bah, aussi, les médecins conseils, il n'y en a plus. Ils ne vous voient plus maintenant. Ils vous voient par des dossiers informatiques. Enfin, comment voulez-vous qu'on juge de votre état si on ne vous reçoit même plus? On marche sur la tête.
Oui, oui. Et il nous reste 3 minutes, Stéphanie. Oui. qu'est-ce que ben, utilisez ces 3 minutes pour nous dire ce que vous désirez aujourd'hui, ce que vous aimeriez voir changer pour vous, bien évidemment, mais aussi globalement pour toutes celles qui sont atteintes, comme vous, de fibromyalgie.
Alors moi, j'aimerais vous dire alors 2 choses. J'ai écrit un livre que j'ai envoyé au ministère de la Santé qui s'appelle « La fibromyalgie, quand le corps hurle ses souffrances ». J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre de la Santé, à tous les ministres de solidarité, handicap et tout ça. J'ai pas eu de réponse de ces gens-là. J'ai eu les réponses de tous les sénateurs. J'ai eu des réponses de mon président de région. J'ai eu des réponses de gens plus proches et des gens sollicités. Comme ça, je n'en ai pas eu. Voilà. J'aimerais dire que tous les gens comme moi se battent à leur niveau, à l'instar de Violette Duval qui a fait comme moi, qui a été jusqu'au ministère, qui s'est déplacée, qui a déposé son livre et qui marche. Voilà, à l'instar de Nicolas Vignali avec son association qui fait beaucoup de choses et qui déplace des montagnes, comme d'autres, comme Fibromavie qui marche et qui fait du stop pour faire entendre sa voix. On aimerait que, comme il y a une journée mondiale de la fibro qui est le 12 mai, comme cette maladie est reconnue par l'OMS depuis 1992, on aimerait devenir visible et sortir de l'ombre. On aimerait que, enfin, on pose de la lumière sur nous. On aimerait être vu. On aimerait avoir peut-être un reportage sur nous, qu'on nous voie, qu'on nous sorte de ce placard, enfin. Et on aimerait peut-être comme ceux qui souffrent d'endométriose et qui ont été médiatisés par des people, par des stars ou par des gens de la télé qui souffraient aussi d'endométriose et qui ont réussi à avoir leur ALD comme ça. Oui, parce qu'ils ont été médiatisés. On aimerait nous aussi être peut-être médiatisés et que des gens qui souffrent de fibromyalgie puissent venir parler à la télé et nous donner leur soutien. Parce que je ne peux pas croire qu'en France, aucune personne, aucune personnalité, aucun acteur, aucun chanteur, aucun ne souffre pas de fibromyalgie.
Il est certain,
et ne puisse pas venir en parler.
Vous avez raison, voilà. Il est certain qu'il y a des femmes artistes, en tout cas médiatisées, qui souffrent de fibromyalgie, parce que c'est tout de même quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui.
Alors ça touche entre 2 ou 3% de la population et environ 80% de femmes. Voilà, on sait que c'est une spirale infernale qui entraîne beaucoup de monde, que ça amène à la précarisation des personnes, que ça les entraîne plus souvent vers la dépression, que si on n'est pas un battant, et ben on touche le fond. Et plus ça va, plus c'est pire, et qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide parce que les gens ils se replient sur eux-mêmes et ils arrivent à toucher le fond d'une manière incroyable. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai appris dernièrement que je suis atteinte de Covid long, et c'est à ce moment-là que j'ai fait un énorme craquage, parce que un Covid long par-dessus une fibromyalgie, c'est extrêmement dur à gérer.
Bah oui,
vous avez une fatigue surajoutée par-dessus cette fatigue. Et là, j'ai complètement craqué. Mais la chose que je voulais vous dire, c'est que une loi a été votée aussi pour obtenir en juillet une ALD pour le Covid long. Et que là aussi, il faut se battre pour l'avoir, parce qu'on n'arrive pas à la battre. L'infectiologue me l'a dit, on n'arrive pas à l'avoir. Il m'a dit, il va falloir se battre là aussi. Alors, vous voyez, les lois, elles sont faites, mais on n'arrive pas à obtenir ce qui va avec. C'est terriblement compliqué. Et voilà, c'était aujourd'hui mon petit combat et ma petite lutte. C'était mon petit cri de désespoir et d'espoir en même temps.
En tout cas, c'est vous qui nous écoutez.
C'est pour ça que je voulais venir parler.
Vous avez bien fait.
Je vous remercie.
Vous avez bien fait de m'écrire, Stéphanie. Et vous qui nous écoutez, si dans votre entourage, alors bien évidemment, c'est très intime, mais si vous connaissez des femmes qui sont susceptibles
ou des hommes,
ou des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de fibromyalgie.
Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y a 20% d'hommes.
Combien? 20%?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Très bien.
Oui, mais, oui.
Écoutez, en tout cas, c'est vrai que le discours de Stéphanie est très fort. Il a du sens parce qu'il faut médiatiser tout ça. Parce que c'est vrai que l'endométriose était au même niveau que la fibromyalgie il y a un moment.
Exactement.
Et il est vrai que, oui. qu'on en a beaucoup plus entendu parler. Donc, vous qui nous écoutez, pensez à celles et ceux qui souffrent. Et vous aussi, parlez. Il faut absolument que ces malades soient prises en compte et que l'on s'occupe d'eux. Parce que je sais, au-delà de votre témoignage, Stéphanie, que c'est un cauchemar, cette maladie. C'est franchement un cauchemar. En tout cas, on vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Et puis, on vous embrasse.
Une dernière chose juste, quand on nous dit « c'est dans votre tête », j'aimerais bien que cette phrase reste ancrée pour tout le monde en disant « oui, c'est dans notre tête ». C'est au niveau des neurones qu'il y a un truc qui ne se fait pas là. Effectivement, c'est dans notre tête, mais pas parce qu'on est fou ou zinzin. Voilà, c'est parce qu'il y a des connexions neuronales qui se font mal.
Ouais.
Donc oui, vous pouvez dire que c'est dans votre tête, mais pas parce que vous êtes folle et qu'il faut aller voir le psy. Voilà, c'était juste un petit joke pour finir.
Très
Merci
bien.
Beaucoup pour...
Bonsoir, ma chère.
Pour votre écoute et votre bienveillance.
Je vous en prie.
Merci,
bonsoir, Stéphanie. Au revoir.
Au revoir.